Merci aussi pour l'accueil. Depuis là, peut-être quelques 2 mois, je suis en contact avec Believe et aussi le président de l'église avec qui j'ai échangé par rapport à ce culte. Et j'avoue que j'ai été tellement bien drillé, tellement bien informé dans tous les moindres détails de comment les choses doivent se faire. Et j'ai même dit à Believe que j'ai été rarement aussi bien informé avant d'arriver dans une église. Sachez que moi, dans mon travail, je vais pas forcément les 52 dimanches de l'année, mais peut-être une trentaine de dimanches dans l'année. Je suis dans différentes églises, depuis Genève jusqu'à Port-en-Truy. Et puis, chaque dimanche, je découvre une nouvelle église. Et c'est un privilège pour moi d'être aujourd'hui avec vous, de pouvoir vivre le culte avec vous. Merci beaucoup au groupe de louanges pour ces beaux cantiques qui nous ont amenés, qui nous ont entraînés et qui nous ont aidés aussi à pouvoir nous connecter au Seigneur ce matin. C'est comme le président du culte l'a dit, je suis Charles Daniel Tchélé, je suis répondant de compassion auprès des églises. C'est la première fois qu'on me dit que je suis ambassadeur. C'est un grand titre. Mais je l'accepte, oui, je l'accepte. Donc, je suis ambassadeur de compassion. Et puis, je suis marié, j'ai 2 enfants. Je suis marié à Evelyne. Et nous avons 2 enfants, David et Evanaya. Et trop souvent, la distance faisant, quand je dois faire plus d'1h30 de route, voilà, je préfère les laisser encore un peu au lit. Parce que demain, c'est lundi, ils doivent encore reprendre et c'est pas évident. Mais ils sont de tout cœur avec nous ce matin. J'ai toujours aussi c'est quoi, une zapette? Comment ça s'appelle? Voilà, une télécommande. J'ai toujours aussi une nouvelle télécommande chaque dimanche. Donc, sachez que ce n'est pas toujours évident de pouvoir trouver si c'est devant ou derrière par rapport à la flèche, mais j'ai trouvé. Alors, le thème de ce matin que j'aimerais partager avec vous, c'est le prochain, ma mission. Le prochain, ma mission. Quand je suis rentré et que j'ai installé le stand de compassion, et à la fin, vous serez invité à venir là, poser des questions, regarder aussi des dossiers de parrainage. J'ai vu aussi la table en face et j'ai vu tellement de belles choses. J'ai vu que c'est une église, l'église de Bienne, du réveil de Bienne, et c'est une église de mission. Il y a pas mal de flyers, d'informations, de missions. Du coup, je me dis, oh Seigneur, merci, je suis au bon endroit. Parce que je suis dans une église missionnelle. Et Dieu nous appelle à être en mission auprès de notre prochain, auprès de celui qui est autour, à côté de nous, celui que nous voyons chaque dimanche, que nous rencontrons, peut-être que nous rencontrons dans le train, dans le transport en commun, peut-être que c'est notre collègue de travail, notre voisin de quartier, un ami d'enfance. Dieu nous appelle à être en mission. Et nous avons pour mission le prochain. Et voilà pourquoi ce matin, le thème sera le prochain. Ma mission. Quelle est notre mission auprès de celui que nous voyons tous les jours, que nous avons vu hier, que nous verrons peut-être demain? Cela sera l'ensemble des points que nous allons parcourir durant ce message. Je vous invite à découvrir ce passage que certainement vous connaissez et que nous connaissons peut-être tous pour avoir déjà fait peut-être 2 semaines de chrétienté. On est sûr qu'on connaît ce passage, mais je vous l'invite à le redécouvrir. Luc, le chapitre 10, le verset 25 à 37. Je suis dans la version française, Luc 2, 21, qui est un tout petit peu différent de ce que je vous ai mis, mais c'est pratiquement la même chose. Ici, il est dit, un enseignant de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver. Déjà là, au niveau de ce premier verset, nous voyons la motivation pour laquelle l'enseignant vient vers Jésus. Un enseignant de la loi se leva et vint vers Jésus, lui posa une question pour l'éprouver. Il lui dit, Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Jésus lui dit, Qu'est-il écrit dans la loi? Qu'as-tu lu? Il répondit, Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Jésus répond en ces termes, Tu as bien dit. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, je suis au verset 27. Vous faites passer ou pas? C'est moi? D'accord. Tu as bien répondu, donc désolé, je suis allé un peu trop loin. Tu as bien répondu, dit Jésus, cela, fais cela et tu auras la vie. Le verset 29. Le verset 29. Mais Voulant se justifier, il dit à Jésus, « Qui est mon prochain ?» Jésus répondit en ces termes, « Un homme descendait de Jérusalem vers Jéricho. Il tomba entre les mains des brigands, qui le dépouillèrent et le rouaient de coups, et s'en allèrent en le laissant à moitié mort. Un prêtre qui passait par ce chemin le vit et passa son chemin. Il prit ses distances. De même aussi, un lévite arriva au même endroit. Il le vit et passa son chemin. Mais un samaritain qui voyageait près de lui le vit et fit rempli de compassion envers lui. Ils s'approchèrent de lui, banda ses plaies et y versa de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture et descendit dans une aubergerie. Et il prit soin de lui. Le lendemain, nous sommes au verset 35, oui, le lendemain, il sortit et sortit deux pièces d'argent, les donna à l'aubergiste et lui dit, « Prends soin de lui, lui dit-il, et si tu dépenses plus, je te le redonnerai à mon retour. » Nous sommes au verset 36. « Lequel de ces trois hommes semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands ?» L'enseignant répondit en ces termes, « C'est celui qui agit avec bonté envers lui. » Jésus lui répondit, « Va et fais de même. » Jésus lui répondit, « Va et agis de même. » Le prochain, ma mission. Dans ce passage, nous nous rendons compte que nous passons d'une question à une autre. L'enseignant parle à Jésus, mais vient vers Jésus avec une motivation pour l'éprouver. La première question qu'il lui dit, quelle est la loi? Quel est le plus grand commandement? Jésus lui dit, qu'as-tu lu? Que sais-tu de la loi? Et donc, lui, il répète cette parole. Tu aimeras le prochain comme toi. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Jésus lui dit, tu as bien répondu. Mais en même temps, il ne s'arrête pas là. Il va plus loin en disant à Jésus, mais c'est qui mon prochain en fait? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est qui mon prochain? Et Jésus va cette fois lui raconter cette histoire, qui est en réalité une parabole, qui est une image, qui est fictive. Et Jésus présente un homme, comme vous et moi, qui descend de Jérusalem vers Jéricho. Et pour ceux qui sont déjà allés dans ces endroits, il y a plein de montagnes, il y a plein d'endroits insécures. Lorsqu'on lit le psaume de David, quand il dit « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours ?» C'est aussi l'expression de l'incertitude qui peut se cacher dans ces zones montagneuses qui sont pleines d'obstacles, pleines de surprises, pas forcément agréables, mais malheureusement qui peuvent être désagréables. Et Jésus s'appuie sur cela pour montrer l'image dans laquelle se trouve cet homme. Qui peut être vous, qui peut être moi? Ce dernier tombe entre les mains des brigands et ces brigands, ils le dépouillent. Ensuite, ils le rouent de coups en le laissant à moitié mort. Triste réalité. Et de là vient l'intrigue. Un prêtre qui certainement est du même rang que celui qui pose la loi, puisqu'il est un docteur de la loi, un sacrificateur, un enseignant, un homme important dans l'Église, descend par là, le regarde loin et il part. Lorsque nous lisons les commentaires autour de cette scène, on peut imaginer que ce prêtre, ce sacrificateur, ou même le lévite, qui eux étaient des gens importants de l'Église, qui étaient censés faire des sacrifices, qui étaient des dignitaires de l'Église, n'étaient peut-être pas habilités à toucher des cadavres. Du coup, n'ayant pas l'autorisation de toucher des cadavres à la veille d'un service, de peur d'être impur, pouvait peut-être justifier le fait que ces sacrificateurs soient passés loin de lui. Toutefois, cela n'empêche pas, cela ne nie pas, nous ne nions pas le fait qu'il soit passé loin de lui. De nos jours, on dirait non-assistance à personne en danger. Vous êtes d'accord avec moi ? Passif de peine. Le sacrificateur a vu l'homme couché, à moitié mort, ne sachant pas s'il est mort ou il est en vie. Finalement, il le laisse et il part. Le deuxième qui passe par là, c'est un lévite, quelqu'un aussi qui travaille dans l'église. Ce dernier le regarde, il passe. Le troisième, un samaritain. Ce samaritain, lorsqu'on lit l'histoire entre les juifs et les samaritains, il y a inimitié, c'était des peuples qui se détestaient, c'était des peuples qui ne cohabitaient pas. Lorsqu'on arrive là et qu'on voit un trait de ressemblance à un juif, on se dit non, c'est mon ennemi, mieux vaut ne pas le toucher. Mais en plus, souvenez-vous, sinon n'oubliez pas, ne perdez pas de vue le fait que cet espace était un espace dangereux. C'était un espace dangereux. Donc si tu perds le temps là, tu risques de te retrouver au même titre ou au même rang que celui-là qui est couché là et qui est dépouillé, blessé, laissé à moitié mort. Mais le Samaritain qui passe par là, c'est tellement sur sa monture, décide de s'arrêter. Il s'arrête pour secourir son prochain. Il s'arrête pour regarder la situation de ce dernier. Il s'arrête pour porter la souffrance de cette personne. Il est dit qu'il avait du vin et aussi de l'huile. Et c'est ce que nous avons lu dans ce passage. Il mit de l'huile et du vin sur les plaies de ce dernier. Il banda ses plaies. Il mit de l'huile et du vin pour l'assister, pour le soulager, pour le désinfecter. Et ensuite, il le mit sur sa monture et il l'a amené à l'aubergerie. Lorsqu'il arrive là, il donne 2 pièces d'argent à l'aubergiste. Et le lendemain, avant de partir, il donne une consigne. Si tu l'assistes plus que je ne t'ai donné, sache que je reviendrai te payer la différence. Et c'est là que Jésus pose la question à ce docteur de la loi, à cet enseignant. Il lui ramène sa question. Souvenez-vous de la question, qui est mon prochain ? Il lui ramène la question. Lequel de ces 3 hommes a été le prochain de l'autre ? C'est une question ouverte, mais à la fois fermée, dans laquelle il n'a pas le choix que de choisir entre le sacrificateur, le lévite ou le samaritain. Et finalement, il choisit la bonne réponse, qui est celle du samaritain. Et Jésus lui dit, va et fais de même. D'une question à une autre. Il arrive des fois où on vous pose une question, la réponse est toute simple. Il suffit juste de donner la réponse. Mais au lieu de donner la réponse, on amène l'autre à réfléchir. Et c'est ce que Jésus fait. Que faut-il faire pour hériter de la vie éternelle, le docteur de la loi ? Que dit la loi ? Qui est mon prochain, le docteur de la loi ? Lequel de ces 3 hommes te semble avoir été le prochain de l'homme tombé entre les mains du brigand ? Dit Jésus. Voyez, cette manière de communiquer de Jésus peut-être est toujours d'actualité pour nous. Lorsque nous nous retrouvons dans des situations personnelles difficiles et qu'on nous dit et qu'on dit à Jésus ou on dit à Dieu, « Mais Dieu, où es-tu ? Où es-tu ? Que fais-tu ? Pourquoi gardes-tu le silence ? Seigneur, pourquoi ma situation ne change pas ?» Imaginez, mettez-vous dans une condition où Dieu vous dit, « Que dit la loi ? Que dit ma parole ?» Mais bien entendu, pour pouvoir répondre à cette rhétorique ou à cette nouvelle question du Christ envers nous, il faut bien connaître la parole de Dieu. Vous êtes d'accord ? Voilà pourquoi en introduction, rappelle-moi ton nom. Jean-Paul, merci. Voilà pourquoi en introduction, quand Jean-Paul présente le feuillet de la lecture du Nouveau Testament pour cette année. Et effectivement, l'église d'où je viens, on a institué aussi la lecture pour la parole de Dieu cette année, à partir du Nouveau Testament. On a dit qu'on commence par le Nouveau Testament. L'année dernière, on a fait depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et cette année, on s'est dit, on commence par le Nouveau Testament. Et on a fait un calendrier pour le Nouveau Testament. Et on y est, on s'encourage mutuellement. Pourquoi ? Parce qu'il est important de connaître la parole de Dieu. C'est une arme efficace. Vous savez, aujourd'hui, si le diable vient, et puis c'est possible hein, que le diable vienne en chair et en os. Pourquoi ? Parce que Jésus dit à Pierre, vous vous souvenez ? Qu'est-ce qu'il dit à Pierre ? Arrière de moi, Satan. Donc ça veut dire que chacun de nous peut être peut-être utile entre les mains du diable pour une situation bien donnée dans la vie de quelqu'un, malheureusement, pour l'affaiblir. Mais comment est-ce qu'on fait pour résister au diable chaque jour de notre vie ? Ben, il faut connaître la parole de Dieu. Il faut la méditer. Il faut flirter avec. Il faut la parcourir. Que dit la loi ? Que dit la parole de Dieu ? Lorsqu'on sent que Dieu est silencieux dans notre réalité, que dit la parole de Dieu ? Lorsque nous ne savons où mettre la tête, ou que nous sommes inquiets de notre lendemain, ou que nous vivons des situations tellement compliquées et ambiguës, incertaines. Heureux celui qui trouve son refuge en la parole de Dieu. Voilà pourquoi moi j'ai envie ce matin de m'approprier cette question de Jésus. Que dit la loi ? J'ai envie de répondre à cela. La loi dit, tu es le Seigneur des seigneurs. La parole de Dieu dit, tu es mon berger, je ne manquerai de rien. La parole de Dieu dit, tu es le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Et face à toutes les situations que je peux traverser, ben, j'ai envie de le dire à mon âme. Comme le psalmiste le dit, mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Trop souvent, nos expériences personnelles nous trompent. Et ça, il ne faut pas le perdre de vue. Nos expériences de vie, ah oui, ça, je l'ai vécu. Ah oui, on l'a vécu. On l'a déjà entendu. On sait, il y a 2 ans, 3 ans, il y a 10 ans. Mais voilà ce que la médecine dit. Voilà ce que le professeur a dit. Il y a tout ce que le monde peut dire. Mais il y a ce que la parole de Dieu dit, qui reste vivant pour chacun de nous dans notre situation personnelle. Si seulement nous la cultivons, si seulement nous la gardons. Psaume 119, je sais ta parole dans mon cœur, le verset 5, afin de ne pas pécher contre toi. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ce matin, je sais que je prêche à des convaincus parce que vous êtes tous friands de la parole de Dieu, vous dévorez la parole de Dieu. Je sais très bien. Et ça, j'aimerais continuer de vous encourager pour cela. D'une question à une autre, mon prochain, ma mission, c'est qui mon prochain ? Jésus lui dit, lequel des trois s'est montré le prochain ? Et il dit, celui qui a fait, eu compassion de celui qui était agressé. Voilà pourquoi, là maintenant, moi j'aimerais que nous regardions un peu dans notre vie personnelle. Dans notre vie personnelle, dans notre cheminement. Dans tout ce que nous avons eu à vivre jusqu'à aujourd'hui. Qui sont ceux qui ont été de bons samaritains pour nous ? Qui sont ceux qui, lorsque nous étions couchés au bord de la route, lorsque les autres nous enjambaient, lorsque les autres nous dépassaient, lorsque certaines personnes nous ignoraient, ces personnes se sont arrêtées. Elles ont prêté attention à nous. Elles nous ont soutenus. Elles nous ont aidés. Elles ont essayé de trouver une solution à notre situation, à notre problème. Trop souvent, nous avons eu de bons samaritains dans nos vies, respectivement, à commencer par moi, mais dont nous n'avons même pas prêté attention. Trop souvent, il y a eu des personnes qui nous ont aidés et nous n'avons même pas daigné leur dire merci. Nous n'avons même pas daigné les honorer. Cette parabole de Jésus révèle aussi ce caractère. Qui sont les bons samaritains sur notre chemin? Qu'ont-ils fait? Comment ont-ils été déterminants dans notre vie personnelle? C'est peut-être des enseignants. C'est peut-être un voisin, une voisine. C'est peut-être nos parents. C'est peut-être un ami. C'est peut-être notre mari. C'est peut-être notre femme. Voilà pourquoi, au sorti de ce culte, l'une des premières missions que Dieu peut nous confier ce matin, c'est de retourner vers nos bons samaritains. De leur faire un petit message, une petite carte, en leur disant, il y a 12 ans, il y a 16 ans, il y a 18 ans en arrière, tu as dit cette parole, tu as posé ce tact. Hier, tu as dit ça, tu m'as donné cela. Ça a été d'une grande aide pour moi, je t'en remercie. Une autre chose que nous pouvons aussi comprendre, c'est comment se distingue ce bon samaritain. Vous voyez, si on revient dans l'histoire, il est dit que cet homme était couché, laissé comme mort. Et lorsque le samaritain est arrivé, il s'est abaissé à son niveau. Il a pansé ses plaies. Il y a versé de l'huile et du vin. Il a pansé ses plaies. Il a aussi mis sur sa monture. Et si on imagine un âne, par exemple, on n'arrive pas, j'arriverai pas forcément, parce que je n'ai pas voulu m'attarder là-dessus, à tracer le chemin entre Jérusalem et Jéricho, pour voir combien de kilomètres il devait faire encore. Mais le fait qu'il ait mis cette personne sur sa monture et qu'il ait marché certainement à côté jusqu'à l'aubergiste, le fait qu'il ait payé pour lui et qu'il ait donné comme consigne qu'il reviendrait pour payer la différence. Le bon samaritain n'avait peut-être pas assez, mais le peu qu'il avait, il l'a partagé. Il n'avait peut-être pas une grande place, mais la petite place qu'il avait, il l'a donnée. Le bon samaritain par excellence, sera certainement le Christ, qui n'a pas regardé d'être égal avec Dieu, mais qui s'est humilié, en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même à la mort sur la croix, pour l'amour de chacun de nous, pour notre salut. Voilà pourquoi aujourd'hui, peut-être que nous n'aurons pas assez pour donner. Mais le peu que nous avons, le peu d'huile et de vin, la petite place que nous avons sur notre monture, les deux dernières pièces que nous avons, peut-être que Dieu nous invite à le partager à quelqu'un. Afin de pouvoir être un bon samaritain pour l'autre. Afin de pouvoir contribuer au sourire, à la vie, à la foi, au témoignage, remplir la mission dans la vie de quelqu'un. Je vais conclure tout à l'heure, mais permettez à ce que je présente l'organisation pour laquelle je suis aujourd'hui devant vous. Compassion, c'est une ONG chrétienne qui travaille depuis plus de 70 ans dans le monde. Et notre mission est de libérer les enfants de la pauvreté au nom de Jésus. Compassion se veut être une organisation chrétienne, une ONG qui est centrée sur l'enfant, centrée sur le Christ et en collaboration avec les églises. Dans la partie en vert, vous avez les pays dans lesquels se trouvent des bureaux, comme la Suisse, que vous voyez en dessous de l'Italie. Dans ces pays en vert, qui sont au nombre de 14 aujourd'hui, nous avons des bureaux dans lesquels nous engageons des personnes, comme moi, à venir dans les groupes de jeunes, dans les églises, dans les rassemblements chrétiens, afin de pouvoir présenter la mission. Nous présentons la mission pour les pays en bleu. Et les pays en bleu, nous avons, ou en rouge, nous avons aujourd'hui 29 pays dans le monde dans lesquels nous travaillons et dans lesquels nous aidons des familles et principalement des enfants vivant dans l'extrême pauvreté. L'extrême pauvreté, ce sont des familles qui vivent avec moins de 2 francs par jour et par personne. Donc imaginez une famille de 4 personnes, papa, maman, 2 enfants. La famille vit avec moins de 8 francs par jour pour toute la famille. Qu'est-ce qu'on peut acheter à Denner? Des pommes de terre, merci Seigneur. Qu'est-ce qu'on peut acheter à la COP avec moins de 8 francs? À la Migros, à Globus, à Manor. Qu'est-ce qu'on peut acheter avec moins de 8 francs? Voilà pourquoi nous venons auprès de vous qui êtes des chrétiens, qui croyez au Seigneur Jésus et qui avez un cœur pour la mission afin de pouvoir voler au secours des enfants vivant dans l'extrême pauvreté dans ces pays. Nous sommes sur 3 continents, le continent sud-américain, le continent africain et le continent asiatique. Nous sommes, comme je l'ai dit, centrés sur le développement de l'enfant, son bien-être. Nous sommes centrés sur le Christ, c'est-à-dire dans ces centres, les enfants reçoivent la parole de Dieu, ils sont encouragés à croire au Seigneur Jésus, ils sont suivis par des encadreurs et nous sommes en collaboration avec 8600 églises aujourd'hui dans le monde. Le programme principal de Compassion, c'est le parrainage. Ce parrainage-là englobe pas mal de choses que je vous présente maintenant. Les enfants parrainés reçoivent des lettres d'encouragement de leurs parrains et de leurs marraines que vous êtes. C'est vous les parrains et les marraines. C'est vous les bons samaritains. C'est vous qui allez encourager ces enfants. Encourager un enfant qui vit dans l'extrême pauvreté, c'est de lui dire « Je crois en toi, je sais que tu peux réussir. Quel est ton projet de vie? Qu'est-ce que tu veux devenir? Qu'est-ce que tu fais dans ta vie ?» Et l'enfant va vous écrire. Et vous, en retour, vous serez engagé à l'encourager, à lui dire « Je prie pour toi. Puisse Dieu te soutenir. » Aujourd'hui, avec Internet, le monde est devenu un village. Et on arrive à savoir à temps réel ce qui se passe de l'autre côté du monde. Donc, en fonction de l'actualité, vous pouvez lui envoyer une lettre d'encouragement pour lui dire « Prends courage, je prie pour toi et je suis avec toi, le Seigneur aussi. » Et cet enfant pourra être encouragé à croire en ses rêves et à pouvoir aller de l'avant dans sa vie. Lorsqu'il sera élève ou s'il est élève, il pourra aussi vous dire quels sont ses défis. Et vous, dans la prière, vous l'encouragez. Le parrainage, c'est aussi un soutien financier. Vous voyez, j'ai un dossier ici. C'est l'exemple de Déborah qui a 5 ans et qui est du Rwanda. Déborah, 5 ans, Rwanda. Si vous choisissez Déborah comme filleule, vous serez engagé à lui apporter 42 francs par mois. 42 francs par mois, c'est ce qui sera suffisant pour pouvoir payer la scolarité, l'école de Déborah, payer de nouveaux habits, acheter de nouveaux habits, une nouvelle chaussure par exemple, permettre à ce que Déborah puisse avoir un sac de riz, un sac de haricots, un morceau de savon, du dentifrice. 42 francs seront aussi suffisant ou nécessaire pour pouvoir accorder un suivi médical à l'enfant durant sa vie personnelle. Donc, lorsque vous donnez 42 francs, c'est pour pouvoir aider Déborah à pouvoir sortir de l'extrême pauvreté, assurer les besoins holistiques, mais aussi son soutien dans la prière et aussi la connaissance de la parole de Dieu. Vous serez aussi amené en tant que parrain ou marraine à connaître l'enfant. C'est-à-dire, dans les échanges que vous aurez avec cet enfant, vous pourrez le connaître. Et si jamais vous voulez aller voir où vit Déborah ou celui ou celle que vous aurez choisi, alors Compassion s'engage à pouvoir organiser un voyage découverte pour aller voir là où votre filleule vit, quelles sont ses conditions, quels sont ses défis, et aussi voir le centre de développement de l'enfant. Nous disons que parrainer un enfant, c'est parrainer sa famille. Pourquoi ? Parce que généralement, les enfants qui sont soumis au parrainage sont les plus petits de la famille. Du coup, lorsque vous apportez quelque chose pour cet enfant et que les vivres sont donnés à cet enfant, la famille aussi en profite. Ses frères, ses sœurs, sa mère, son père peuvent aussi bénéficier de cela. Donc, vous, depuis la Suisse, vous pouvez, pour moi, en griffe, adopter un enfant sans que cet enfant vienne vivre en Suisse. Combien de fois c'est compliqué aujourd'hui de pouvoir adopter un enfant, mais de loin, cet enfant peut appartenir à votre famille. Moi, je vous donne mon exemple. Moi, j'ai deux enfants. Nous sommes quatre à la maison officiellement, mais officieusement, nous sommes huit. Nous sommes huit parce que sur notre mur de photos de famille se trouvent aussi les photos de nos filleuls, de moi, ma femme et mes enfants. Et lorsque nous prions à table, ou même le soir, avant de dormir, ou même dans notre culte de famille, ce sont nos enfants qui sont les premiers à prier pour Umaru, Dara, Edna et Florence, qui sont tous des enfants que nous parrainons depuis quelques années. Et cela est très encourageant. Lorsque nous décidons de leur écrire des lettres d'encouragement, ce sont les enfants qui font des dessins, qui font des cartes, et ils sont très enthousiastes à cela. Et moi, je vous encourage vraiment à imaginer le faire, pourquoi pas en famille. Le programme de parrainage est l'un des programmes de Compassion. Mais au-delà du programme de parrainage, on a aussi d'autres programmes que nous avons. Par exemple, ce programme-là qui est un programme qui consiste à parrainer une maman et son bébé. Il est moins exigeant que celui-là. Parce que celui-là, il faut écrire une lettre et puis ça dure des années. Mais ce programme, il est sur 18 mois. C'est pour pouvoir aider une maman enceinte à pouvoir faire toutes les consultations prénatales, s'assurer qu'elle puisse accoucher, non pas chez une matrone, mais dans un dispensaire, dans une maternité, et que cet enfant puisse aussi vivre. Parce que la mortalité infantile est très élevée dans les pays pauvres. Vous savez, dans certains pays, on ne donne même pas de nom à l'enfant avant qu'il n'ait eu 3 mois, parce qu'on a peur de s'attacher à lui. Et la probabilité que l'enfant meure avant 3 mois est très élevée. Alors, vous pouvez vous engager à parrainer une maman et son enfant et à assurer la vie à cet enfant. Je vous présente une vidéo qui est l'un des projets aussi de Compassion, qui est très basique, hein. Est-ce que vous pouvez appuyer sur play, soit parce que c'est une vidéo. Si moi je fais pas, je peux ? Non, je passe. Par expérience, j'ai compris que ça marchait pas avec la télécommande. Donc c'est à vous d'appuyer sur espace ou de cliquer là-dessus. Alors c'est une vidéo dans laquelle on présente, voilà, là. C'est une vidéo dans laquelle on présente une famille et une réalité auquel ils ne s'attendaient pas du tout. Merci.
Maman, je dois aller aux toilettes.
Mais ma chérie, tu viens d'y aller.
Maman, c'est urgent. T'as qu'à prendre une bouteille. Clairement, je dois faire que Mimi.
Sinon, on s'arrête au bord de l'autoroute et lui fait dans un buisson, comme en Afrique.
Non. Je veux des vraies toilettes.
Et Jésus répondit, lequel de ces trois hommes semble avoir été le prochain de celui qui est tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a agi avec compassion envers lui. Et Jésus répond, va et fais de même. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur, merci pour ce que tu es bon envers chacun de nous. Tu as mis sur notre chemin des bons samaritains qui nous ont soutenus, qui nous ont aidés, qui nous ont amenés à pouvoir réaliser des projets de vie que nous ne pouvions même pas le faire. Et Seigneur, ce matin, nous voulons te bénir pour cela et aussi t'exprimer toute notre reconnaissance pour ce que tu ne nous as pas laissés au bord de la route comme morts, mais tu as volé à notre secours au travers de ces personnes que nous bénissons, Seigneur. Et la mission que tu nous confies, c'est d'aller, de faire de même, d'être nous aussi de bons samaritains. Voilà pourquoi je prie pour chacun de nous. Ouvre notre esprit à pouvoir être de bons samaritains. Peut-être pour notre entourage, peut-être pour ceux qui sont autour de nous, peut-être pour nos parents, pour nos familles, pour notre conjoint, ou peut-être pour des enfants qui vivent dans l'extrême pauvreté et qui sont loin d'ici, pour qui nous pouvons, par la foi, nous engager à pouvoir marcher avec eux et les aider à sortir de l'extrême pauvreté. Seigneur, merci pour cette église de réveil. Je prie que tu bénisse cette église davantage et que tu permettes à ce que dans cette église sortent des personnes qui te craignent, des lumières du monde, des personnes qui changeront la ville de Bienne, mais aussi toute la Suisse. Je crois en toi pour chacune des familles ici, chacune des personnes ici. Tu connais les réalités par lesquelles chacun passe. Je prie que tu t'en souviennes et que tu pourvoies. Tu te montres le Dieu puissant, le Jéhovah Sabaoth. Et que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen.